Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum.
La fortune, c'est une bonne chose. Quand on en a, on en profite.
Bonjour Peter Deitch, tu es membre du Créum depuis un certain temps, tu diriges l'axe éthique et économie, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal, et tu as accepté de venir discuter du budget 2010 qui vient d'être présenté et déposé par le ministre des Finances du gouvernement québécois, Raymond Bachand. Et pour commencer la discussion, je citerai ici un passage du discours sur le budget qu'a prononcé Raymond Bachand la semaine passée. Une tarification en lien avec le coût des produits et services présente deux avantages. D'une part, celui qui consomme le service en assume une partie des coûts. Cela évite le gaspillage et incite à consommer de façon rationnelle les services fournis par l'État. D'autre part, la tarification permet l'amélioration et le maintien des services de qualité. Qu'est-ce que tu penses de cette idée?
Alors d'abord, merci Martin de cette invitation pour discuter le budget du Québec. En fait, ce pari sur la tarification est un pari qui, à mon avis, doit être analysé dans le détail. D'abord, j'aimerais peut-être distinguer entre un argument en théorie et puis des questions pratiques. En théorie, je serais d'accord avec la perspective du gouvernement qu'il y a des contextes où la tarification est plus efficace. Je donnerai un exemple. L'exemple de l'électricité est une bonne illustration. Si on paye l'électricité via l'impôt général, le consommateur n'a aucun incitatif de traiter l'électricité et les ressources dont on a besoin pour la produire avec caution et d'épargner sur sa consommation d'énergie. Par contre, si le prix est payé par le consommateur via des tarifs, alors à ce moment-là, il y a un incitatif d'épargner, de ne pas consommer autant. Alors, dans un tel contexte, la tarification est une bonne chose. Maintenant, il y a deux questions. D'abord, est-ce que cet argument se transfère à d'autres domaines de notre société, comme par exemple la santé et l'éducation? Là, je ne serais pas d'accord. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des mesures, au même temps qu'on pousse cette tarification, pour compenser les moins nantis dans la société, qui évidemment devront payer plus proportionnellement que les riches? Alors, autrement dit, les tarifs, c'est une mesure régressive qui devrait être compensée par des transferts via les plus pauvres dans la société. Ça, on le voit aussi dans le budget du Québec. On a ce fonds pour la solidarité.
Un crédit d'impôt remboursable pour la solidarité. Donc, quelqu'un qui fait moins qu'un certain niveau va avoir un crédit de remboursable, je crois, de 174 $. C'est le chiffre qui est sorti.
Exactement. Et l'argument du gouvernement est que ce crédit d'impôt remplace et bonifie les crédits d'impôt qui existaient pour des gens à moindre revenu déjà dans le passé. Alors, dans un sens, on essaie de compenser le fardeau de la tarification. Alors, je ne suis pas sûr si je suis convaincu par cette argumentation, parce que d'un côté, c'est une question empirique. Alors, est-ce que la magnitude de cette compensation va vraiment être satisfaisante? Mais deuxièmement, et de manière plus importante, si je regarde ailleurs dans le budget, il y a tant de mesures régressives qui, à mon avis, vont miner l'effet de ce crédit d'impôt, que on pourra finir avec une situation, avec une structure fiscale beaucoup plus régressive qu'avant. Alors, je cite rapidement quatre de ces mesures. Il y a la hausse de la TVQ. La TVQ est aussi une mesure régressive. Dans d'autres pays, il y a différents niveaux de TVQ pour différents produits. Ça aurait été quelque chose qu'on aurait pu pousser si on est vraiment engagé pour la solidarité. On ne l'a pas fait. Il y a les deux contributions en santé. D'abord, la contribution en santé qui sera de 25 $ en 2010 jusqu'à 200 $ en 2012. Encore une fois, c'est une mesure régressive parce que tout le monde paye le même montant. Troisièmement, encore une fois en santé, il y a le ticket modérateur, ou on devrait dire avec le gouvernement du Québec, le ticket orientateur, qui n'est pas encore coulé dans le béton dans le détail, mais dont l'idée est déjà, ou la décision est déjà prise. Ici, l'idée, c'est que tout le monde paye un certain montant juste pour aller voir le médecin. Ceci aussi pourrait être interprété comme une mesure régressive, parce que les riches ont les moyens de le payer, tandis que les pauvres, alors soit ils vont ne pas payer et ne pas aller chez le médecin, soit ils n'auront pas l'information pour évaluer si ça vaut la peine d'aller voir le médecin. Alors, ils sont défavorisés dans ce contexte, comme m'a expliqué notre collègue Marc Zaffran récemment. Un dernier exemple pour la régressivité, c'est la coupure de dépenses. Alors, le budget, il y a beaucoup d'éléments où on veut couper des dépenses. Quand on coupe des dépenses, souvent, l'impact peut aussi être régressif, même si on parle d'une détérioration de la qualité de services qui sont offertes.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Quand le gouvernement pousse la tarification combinée avec une redistribution via des transferts directs, on présuppose que les personnes défavorisées dans la société vont en fait aller chercher ces transferts. Hein? Et comme on le voit, comme tu viens de l'expliquer dans le système de la santé, c'est pas évident qu'ils vont le faire. Mmh. Parce que des fois, ils n'ont pas les informations que ces crédits d'impôt existent. Ils ont honte de les revendiquer parce que ça les stigmatise comme quelqu'un qui est défavorisé. Alors il y a toutes sortes de raisons pratiques qui font que la redistribution qui, en théorie, doit aller avec la tarification pour la compenser, ne marche pas dans la pratique. Hein? Alors, même si le gouvernement ferait plus d'efforts, et j'ai donné plusieurs exemples pour penser qu'il ne le fait pas, même si le gouvernement faisait plus d'efforts pour redistribuer de cette manière-là, il y a aussi des défis pratiques pour une telle entreprise.
Il y a une autre justification que le ministre des Finances a utilisée pour justifier la hausse des tarifs plutôt que de recourir aux impôts. Et je cite encore son discours sur le budget. « Les études du ministère des Finances arrivent aux mêmes conclusions que celles de l'OCDE et de la grande majorité des experts en la matière. Les taxes à la consommation freinent moins la croissance économique que les impôts sur le revenu personnel des individus. » Là-dessus, Peter, j'appelle à ton expertise face à ces experts-là. Que disent les experts sur ce choix de la tarification face aux impôts pour faire bénéficier la croissance?
Dans ce contexte, beaucoup de questions sont des questions empiriques. Hein? Alors, il faut vraiment regarder, est-ce que les revendications qui poussent pour une taxation de la consommation sont bien fondées? Si on regarde, par exemple, sur l'impôt sur les revenus plus élevés, il y a pas mal d'études qui démontrent que quand on augmente le revenu sur les autres salaires, il n'y a pas vraiment un effet de recul du marché de travail de la part des riches. Mm-hmm. Alors, il n'y a pas cet effet que craint le gouvernement pour la croissance, que les riches, quand on les taxe davantage, vont travailler moins.
Ou déménager.
Ouais. Hein? Le déménagement, c'est une crainte encore plus concrète dans le contexte des entreprises. Et là, on vient de vivre une étude de cas, si on veut, en Angleterre. En Angleterre, à Londres, il y a une concentration forte dans l'industrie financière. Le gouvernement a décidé d'imposer un levier important, un impôt important sur cette industrie. Avant l'imposition, il y avait beaucoup de banques qui disaient on va délocaliser quand ça arrive. Et après, ils ne le sont pas fait.
Ils n'ont pas
appliqué leur menace. Alors, cette crainte que l'impôt sur les autres salaires et sur les entreprises menacent nécessairement la croissance, n'est pas vraiment fondée sur des bonnes études empiriques, ou au contraire, il y a des études empiriques qui montrent que l'effet qu'on craigne n'existe pas vraiment.
Hein?
On pourrait même se poser, alors, même si c'était vrai que c'est pas idéal pour la croissance d'imposer ces facteurs-là, si on regarde les dernières 20 années dans les pays industrialisés des pays de l'OCDE, la distribution des revenus a été favorable pour les riches. Alors, le travailleur moyen a vu son salaire ou son revenu net croître minimalement ou même regresser dans certains cas. Mmh. Alors dans un tel contexte, on pourrait se demander pour qui la croissance ? Si la croissance est importante, elle semble être importante d'abord et surtout pour ceux qui ont déjà beaucoup et peut-être pour les coffres du gouvernement parce qu'évidemment, il y a plus de revenus d'impôts quand il y a croissance.
Donc, on pourrait dire que les experts sont divisés sur la question. C'est-à-dire, c'est le...
Mais, oui, oui. Alors là, évidemment, j'ai présenté l'avis contraire, mais alors, il y a dans l'économie néoclassique, il y a beaucoup d'économistes qui sont d'accord qu'il ne faut pas taxer les autres salaires et les entreprises pour ne pas nuire à la croissance.
Tu disais que si on impose les revenus les plus élevés, il n'y a pas d'effet comme de travailler moins, ce qui fait que ça ne nuirait pas à la croissance que de hausser les impôts sur les revenus les plus élevés. Ce que j'ai entendu de la bouche du ministre des Finances lui-même sur cette question, c'est que il n'est pas possible d'aller chercher beaucoup des revenus dont le gouvernement a besoin. Et il n'y en a pas beaucoup à aller chercher dans les revenus les plus riches. C'est vraiment très peu en rapport avec les revenus qui peuvent être générés par un point de TVQ, donc de la taxe de vente sur le Québec, qui là va ramener dans les coffres du gouvernement beaucoup plus d'argent.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la masse des revenus des gouvernements dans les pays industrialisés est générée par le travailleur moyen, par des taxes sur la consommation, etc. Alors, les autres salaires et les entreprises contribuent peu, mais ils contribuent quand même. Hein? Et si on regarde un peu, il y a 20, 30 ans, ils contribuaient plus. Alors, leur contribution est en baisse, et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle est en baisse? Alors, d'abord, à cause de ces arguments qui disent... Il ne faut pas imposer parce que ça nuit à la croissance. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est la capacité des individus à haut revenu et des entreprises de ne pas vraiment payer le taux d'impôt nominal qu'ils devraient payer.
Donc les échappatoires fiscales sont utilisés.
Et là, alors il y a des signes dans ce budget du Québec qu'on veut faire quelque chose contre l'évasion fiscale. Reste à voir si des mesures vraiment efficaces seront prises contre ces pratiques qui sont quand même importantes. Alors il y a une perte de revenus d'un côté, c'est pour ça que le gouvernement a un intérêt de faire quelque chose contre cela. Mais il y a aussi la concurrence entre les différents États qui fait que on hésite imposer les entreprises et les autres salaires et deux, de vraiment arrêter l'évasion fiscale qui peut se pratiquer aujourd'hui. Ça nécessiterait un effort coordonné plutôt qu'un effort qu'un gouvernement peut fournir lui seul.
Ça nous amène d'ailleurs sur un terrain intéressant qui est celui de la compétitivité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une spirale descendante? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une course vers le bas qui nuit à tout le monde? Et là, on devine que rendre le régime fiscal plus compétitif, c'est justement avoir des bonis d'impôts, donc toutes sortes de mesures qui permettent aux entreprises, aux personnes plus riches, de continuer à faire beaucoup d'argent sans se voir taxer ou imposer. Mais si nous, on le fait, d'autres vont le faire, et si d'autres le font, nous, on va le faire aussi. Ouais. Et là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une spirale qui devient extrêmement difficile à maîtriser? Est-ce que Raymond Bachand ne devrait pas tout simplement pas dire « il n'y a rien que je peux faire ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, qui se cache derrière ça, qui est l'incapacité même d'un gouvernement comme, important comme celui du Québec d'essayer de redresser cette situation?
On touche à la fameuse question du « race to the bottom », la spirale qui nous amène à des taux d'imposition zéro, en théorie au moins. Et on peut se poser la question, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans la pratique des taux d'imposition zéro? Alors c'est parce que cette spirale, elle connaît quand même des limites. Si on regarde par exemple les pays scandinaves, ils sont soumis aux mêmes contraintes que le Québec par rapport à la pression de compétitivité. Alors, eux aussi, ils ont dû baisser leur taux d'imposition sur les entreprises. Les taux d'imposition sur les entreprises en Scandinavie sont parmi les plus basses dans le monde. Mais ils ont justement réussi à compenser d'une manière non régressive. Alors, ils ont choisi une TVQ avec des échelles, etc. Ils ont été innovateurs dans la compensation qui est quand même équitable. Alors, ça veut dire, oui, le gouvernement est sujet à des pressions de compétitivité, mais le gouvernement peut aussi gérer ces pressions d'une manière plus ou moins équitable, au moins dans les pays industrialisés. Mm-hmm. Si on parle de pays en développement, là, le problème est plus important parce que ces pays n'ont pas vraiment la possibilité de délocaliser leur impôt sur la consommation ou d'autres facteurs moins mobiles.
Il y a peu de sources de revenus.
Exactement, il y a moins d'alternatives. Alors pour les pays industrialisés, il y a d'autres options et il y a des pays qui les exploitent. Et peut-être on aurait dû voir un peu plus de ces alternatives dans le budget actuel du Québec. D'ailleurs, sur la compétitivité, il y a une étude intéressante qui est sortie cette semaine par l'entreprise KPMG qui analysait la compétitivité de plusieurs villes dans les pays industrialisés. Et il paraît que les villes principales canadiennes et surtout Montréal arrivaient en haut de la table de cette étude de compétitivité.
Ah oui,
Il y a peut-être des pressions de maintenir cette place, mais au même temps, il ne semble pas que Montréal ou le Québec souffrent d'un manque de compétitivité.
Dernière question que j'aimerais te poser, Peter. Tout à l'heure, on a eu une discussion avec Marc Zafran, alias Martin Winkler, chercheur invité au CREUM, sur le financement du système de la santé à travers une contribution directe via les impôts. Et aussi, donc première mesure régressive, et aussi, comme tu parlais, le fameux ticket orientateur. Le ministre des Finances dit « Vous voulez des services de qualité, il faut bien payer ces services ». Mais là, on parle du domaine de la santé.
Oui, alors il y a deux considérations. La première considération, c'est le fait que la santé n'est pas un choix. Et parce que ce n'est pas un choix, le modèle de la tarification ne s'applique pas à ce contexte. Et la deuxième considération qu'on a déjà mentionnée, c'est le fait que la contribution santé et aussi le ticket orientateur ont des effets régressifs. Alors, c'est même pas le cas qu'on paierait proportionnellement pour les services qu'on consomme, mais tout le monde paie la même chose. Et cette régressivité, on peut la critiquer dans le contexte de la santé comme ailleurs. Mais cet aspect-là, il n'est pas particulier au contexte de santé. La tarification même, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des contextes comme la consommation d'électricité où je trouve ça tout à fait jouable et même une option attrayante si c'est compensé par d'autres choses. Dans le contexte de la santé, ça ne marche simplement pas parce qu'il y a cet élément du choix. Alors la santé, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, alors ça n'a pas de sens de demander aux patients de payer leur coût de santé.
Peter, un étudiant te remet ce budget comme son travail de fin de session. Quelle note tu lui donnes?
Je lui demanderais de m'éclaircir plus sur ses objectifs. Hein? Alors, de mettre ses cartes sur la table de ce qu'il veut vraiment faire. Il y avait un commentaire qui m'a frappé dans le débat après le dépôt du budget. C'est quelqu'un qui disait, écoutez, regardez dans les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, il y a aussi eu certains éléments de tarification, certains concessions par rapport à ces pressions de compétitivité. Mais la population était convaincue que le gouvernement était sérieux quand il voulait compenser ces mesures-là par des mesures de transfert et de redistribution. Ce que je ne vois pas encore au Québec, c'est que la population est convaincue que les intentions de son gouvernement sont vraiment de compenser pour ce tournant de lucidité qu'on vient de voir.
Alors, on n'accepte pas la copie, on dit à l'étudiant de retourner au travail.
Oui, je dirais oui. Oui.
Merci, Peter.
Merci, Martin.
La fortune, c'est une bonne chose. Quand on en a, on en profite. La fortune, c'est une bonne chose. On y revient. Puis quand tu n'auras, puis tu vas n'avoir. Donne-moi ça. Ma fortune, c'est une bonne. chose pour nos impôts qui dit qu'on en profitera. Mais les profits, c'est pour les autres et pour nous autres. On nous promet que ça nous reviendra, que ça dégringolera dans nos poches. Moi, je pense que ce sera un gros paquet de roches avec ses poches. Up to